Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Salut, bonjour, nous voilà de retour après déjà 3 semaines d'absence, 3 semaines pendant lesquelles on a bossé comme des nègres, si je puis dire, puisqu'on a vu un film sur l'esclavage, lu un livre sur l'Amérique des 70s, regardé une série policière et écouté un disque de pop éthéré. C'est Focus Store, saison 2, épisode 7, la revue culturelle du magazine Focus Vif, avec le spécialiste des mauvais genres littéraires, Olivier Van Varenberg. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Avec le journaliste ciné et BD Nicolas Clément, salutations.
Salut Myriam.
Et avec notre homme à tout faire, Guy Verstraeten, cordialement.
Bonjour Myriam.
Donc cette semaine on va disséquer les hype du moment, à savoir le long métrage 12 Years a Slave de Steve McQueen, la nouvelle et très attendue série HBO True Detective, l'album des Liégeois My Little Cheap Dictaphone qui s'appelle The Smoke Behind the Sound, et enfin le roman de Renata Adler, Hors Bord. Venez, montez, c'est le moment, c'est l'instant, à l'abordage.
Solomon Northup is an expert player on the violin.
I was born a free man, lived with my family in New York.
Be good for your mother.
Until the day I was deceived.
To Solomon.
Kidnapped, sold into slavery.
Well, boy, how you feel now?
My name is Solomon Northup. I'm a free man.
And you have no right whatsoever to detain me.
You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway.
Went down to the river. 12 Years a Slave, un film qui compte parmi les favoris aux prochains Oscars puisqu'il comptabilise 9 nominations dont celle du meilleur film. Son réalisateur c'est Steve McQueen, à ne surtout pas confondre avec Steve McQueen. Celui-ci est anglais, d'abord vidéaste puis réalisateur de cinéma. C'est un artiste, un vrai, il a d'ailleurs reçu le Turner Prize en 99, c'est la plus prestigieuse récompense qui peut être attribuée à un artiste britannique. Il a déjà 3 longs métrages à son actif, Hunger, Shame et aujourd'hui donc 12 Years a Slave, film à récompense, film qu'on diffusera sûrement dans les écoles, film utile sur l'esclavagisme aux États-Unis dans la première moitié du 19e. On y plonge à travers l'histoire de Solomon Northup, un noir violoniste raffiné et surtout libre qui se fait enlever un jour et se retrouve à tâter du fouet dans les plantations de coton de Louisiane. Son calvaire va durer 12 ans, 12 années terribles qu'il va relater dans un livre dont ce film est l'adaptation. C'est donc une histoire vraie et c'est une véritable épreuve pour le spectateur. 2 heures terrible, dont on ne sort pas tout à fait indemne, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai, à l'issue desquelles on aura feuilleté en long et parfois en très long, en large et en travers, tout le catalogue de la cruauté humaine. Je vais encore vous dire que c'est Chiwetel Ejiofor qui joue le rôle de Solomon et Michael Fassbender, l'égérie de Steve McQueen, qui fait le gros méchant. Alors Nico, c'est toi qui as signé la critique du film dans Focus et tu as aimé, hein, pour autant qu'on puisse aimer un film pareil.
Voilà.
Tu parles même du percute. Ah, c'est fort à propos, évidemment.
Je pense pas avoir dit percute, mais
Enfin
quelque chose du genre. Mais oui, j'ai aimé. Comme tu dis, autant qu'on puisse aimer un film comme ça, c'est toujours un peu difficile de situer parce qu'on peut pas sortir du film en se claquant dans les mains et en disant
oui. C'était sympa.
Ce film. Et en même temps, c'est un film qu'il est aussi, j'imagine, difficile de ne pas aimer parce que alors ça devient tout de suite un peu.
C'est une drôle de posture.
Ouais, un terrain un peu plus délicat de venir mettre des arguments sur le fait qu'on n'aime pas ce genre de film, puisqu'effectivement, message très fort, belle mise en scène, etc.
Voilà. Beaucoup de films sur des sujets importants qui sont des bouses. Hein,
qui sont nuls, ouais, c'est vrai.
Si, c'est pas le cas.
C'est vrai. Par contre, juste un truc, est-ce que ce film vraiment pourrait être montré dans les écoles?
Je me suis demandé la même question, effectivement.
C'est quand même très violent.
Ouais, mais la violence n'est pas très graphique, elle est très suggérée quand même.
Oh non, elle n'est pas suggérée. Le coup de fouet, on voit la peau qui se lacère.
Oh oui, mais on ne voit pas le sang, on ne voit pas. Enfin, on voit des plaies.
Justement, c'est ça qui est très violent, c'est que la violence n'est pas esthétisée, je trouve, ici. C'est qu'il y a une réflexion. Enfin, on va en parler, ouais, Steve McQueen, ouais. C'est un vrai travail d'auteur qui est fait autour. La manière dont il filme la violence est assez maligne. Je trouve que c'est de l'anti-Tarantino parce que c'est pas du tout esthétisé.
Ouais, ouais.
Et justement, ça devient d'une violence absolument abominable. J'ai jamais vu un coup de fouet qui faisait aussi mal que dans ce film-là.
Oui. C'est clair qu'on les prend, hein, ces voilà. coups de fouet.
On va peut-être revenir sur le sujet vraiment du film, mais juste un truc, c'est pas très esthétisé, mais c'est très mis en scène.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait.
Donc, formellement, c'est très travaillé.
Tout à fait.
Ça, c'est un reproche qu'on peut lui faire aussi, ou qu'on lui a fait d'ailleurs. Mais...
Oui.
Bah, c'est un film après tout, hein, donc quelque part, il est obligé de. Alors, tu fais un documentaire si tu veux pas faire.
Non, il y a un gros travail cinématographique autour, le montage, le son, voilà, les gros plans.
Si tu veux faire un film, fais-le. Fait le correctement et
c'est en gros son argument à lui, mais c'est vrai qu'il fait des très belles images. En même temps, il disait, ben voilà, les plantations du sud des États-Unis sont très belles. On n'allait pas faire semblant que le contexte était moche. Et finalement, en fait, je trouve qu'une des forces du film, c'est justement de créer une sorte de tension entre une belle forme et la beauté des images et la dureté du propos.
Ouais,
quoi.
Un goût de paradis perdu, comme disait un certain Nicolas Clément voilà, dans un excellent article de Focus.
Des forces Nicolas Clément, j'aime.
Mais voilà.
Par contre, moi, quand j'ai été le voir au cinéma, la salle était remplie un après-midi et les gens, directement, quand le générique a commencé, se sont mis à rigoler, à se faire des batailles de pop-corn. Donc, j'ai pas tellement compris.
Pour décompresser un peu.
Oui, peut-être, c'est ça.
Tu peux difficilement, effectivement, comme l'a dit Nicolas, te faire des batailles de pop-corn pendant.
Oui.
Parce que alors, tu attrapes directement très mauvaise réputation. Mais de fait, c'est quand même une épreuve. Hein. Il faut le dire. Moi, je suis allé voir hier soir et c'est assez oppressant. C'est étouffant. Et
ça fait militant, voilà. Je pense. Hein.
Oui, complètement. Bien entendu, maintenant, je parlais en l'occurrence de documentaire tout de suite. Je trouve qu'il n'y a pas non plus d'énormes enjeux, sans vouloir faire de grosses critiques au film, forcément, comme tu l'as dit, mais il n'y a pas d'énormes enjeux dans la narration. C'est-à-dire qu'il il se fait enlever, c'est le premier nœud.
Le titre donne déjà la fin du...
Voilà, exactement, il se fait enlever, et ensuite, après, il se fait défoncer. Pendant tout le film, jusqu'au moment où il en sort. Et pendant ces moments-là, il n'y a pas vraiment de gros rebondissements,
Non,
c'est
plutôt...
une démonstration de ce qu'est l'esclavage, voilà. De ce qu'a été l'esclavage.
Exactement ça, mais ce que je veux dire, c'est en termes de nœud d'intrigue, en termes de nœud narratif, il n'y a pas... C'est pas très fourni. Hein.
Mais l'intérêt, c'est aussi ce que ça évoque en toi. Voilà,
oui,
c'est le voyage intérieur du spectateur.
Mais je dis juste que c'est très dur à vivre, ce film. Franchement, c'est très dur.
Moi, j'ai eu des crampes toute la soirée après. J'étais tellement tendu pendant 2 heures dans la salle que j'ai eu des crampes aux pieds tout le temps.
Non, moi, j'ai vécu un bon moment de cinéma. Comme tu dis, il y a un gros travail de mise en scène, un gros travail de mise en forme, etc. qui est là. Il y a un plaisir cinématographique, peut-être secondaire par rapport aux propos, mais qui est présent. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le film, et je pense que c'est là où se situe l'acte militant de Steve McQueen dans son propos, c'est la première fois que je vois un film sur l'esclavage qui me fait tant penser à la barbarie nazie.
Oui.
Et je pense que c'est voulu. La
scène des douches tombe au bon moment, je trouve.
Voilà, il y a plein de choses comme ça qui viennent s'additionner, des scènes.
La diffusion de responsabilité aussi, ceux qui n'interviennent pas.
L'humiliation permanente, la folie des matons, j'allais dire des matons, mais du propriétaire de Michael Fassbender.
Oui, une cruauté jouie.
Qui ne peut supporter la folie de ce qu'est l'esclavage et d'utiliser un homme comme un instrument et en faire ce qu'on veut, ils sont obligés de tomber dans la folie. On retrouve les parallèles à ce que Spielberg avait fait, je trouve, autour de la liste de Schindler, par exemple. Mm-hmm. Et donc voilà, moi le film m'a frappé pour ça, parce qu'on fait vraiment un parallèle voulu, je pense, entre ce qu'a été la barbarie nazie et ce qu'a été la barbarie blanche, esclavagiste des États-Unis. Et c'est ça dans lequel le propos est fort, parce que les Américains se prennent ça en pleine gueule.
Oui.
C'est... Voilà, la barbarie nazie n'est pas tellement loin de notre propre histoire.
Mais les Américains et je pense les Blancs en général.
Ah ouais,
je me suis senti
honteux.
Non, vraiment.
Oui.
Et en ce sens-là, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas énormément d'enjeux et que l'histoire soit beaucoup plus classique que ses films précédents, finalement, dans Shame et dans Hunger, il creusait des trucs quand même beaucoup plus troubles, etc. Mmh. Ici, on voit directement où il va. Clairement, mais l'idée, je pense que c'est un peu de nous mettre le nez dans le caca.
C'est vachement riche.
Et il y arrive, on est tous visiblement, on a tous été marqués, entre guillemets, enfin on n'a pas...
Moi, le seul petit bémol, au-delà de ce que je viens de dire, le seul petit bémol que je pourrais avoir par rapport au film, c'est quand même l'intervention de
Brad Pitt.
Bah, voilà, tous d'accord, qu'est-ce qu'il fait ? What the fuck, quoi.
Brad Pitt qui arrive...
Mais qui est producteur du film.
Qui est producteur et qui s'est dit, bon...
Il y a un rôle de gentil.
Justement,
mais c'est ça, c'est le seul blanc valable.
J'ai justement 3 jours là. Et ça, si tu veux, à la limite, je
peux venir te sauver.
Je te fais vite le petit personnage. Je laisse pousser un peu ma barbe. Et,
les têtes de Quaker, presque rigolote.
C'est à la limite du ridicule.
Oui, c'est un peu grotesque. Non, surtout qu'il se soit aménagé ce rôle-là de sauveur.
Oui, c'est ça. Et qui est très caricatural par rapport à tout le reste qui est vraiment dans le noir le plus profond. Celui-là, il est tout gentil.
Et non seulement il est gentil, mais en plus, il explique ce qu'il faut penser de l'esclavage. En une phrase, il dit l'égalité entre les hommes.
Et c'est le seul moment où Steve McQueen tombe dans le discours. Je trouvais ça très fort et différent d'un film de Spielberg, par exemple. C'est qu'il n'y a pas de discours jamais. Il y a beaucoup de silence. Au contraire, l'intro est très silencieuse. Il est dans la démonstration de l'horreur de ce que ça représente, mais il n'est pas dans le discours jamais. Sauf ce petit dérapage avec l'arrivée de Brad Pitt qui vient faire son caméo. Oui,
complètement. Peut-être que c'est pour aussi un peu booster les ventes, avoir le nom de Brad Pitt sur l'affiche.
Mais il paraît.
Sans doute.
Et donc, apparemment, en Italie, les affiches sont avec Brad Pitt et Michael Fassbender. Oui. Ça a été considéré comme
raciste. Quand même dire celui qui va aller voir le film qu'on voit Brad Pitt à peu près 5 minutes.
Oui, c'est voilà, ça.
Dans un rôle qui n'est pas fondamental.
Qui n'est pas fondamental. Moi, je trouve que vraiment bien, par contre, dans le film, c'est comme tu disais, surtout les moments longs, par exemple, quand il est pendu et quand il patauge dans la boue, c'est interminable. Mais là, tu sens que tu es en train de vivre un tout bon moment de cinéma.
Parce oui, et que tu vois exactement. La vie qui s'active autour de lui, qui lui accorde à peine un regard.
C'est vraiment un tour de force. Ouais.
Oui. C'est là qu'elle est la violence, en fait. Elle n'est pas tellement, effectivement, dans des trucs gore, etc., mais elle est dans des moments vraiment
les
hyper
enfants
intense,
qui jouent à côté d'un autre pendu, qui jouent à côté, c'est dans leur quotidien, dans leur ordinaire, de voir...
Et donc, finalement, on ne peut pas projeter ce film dans les écoles ? Parce que c'était ça la question qui était posée.
Je pense qu'il est très violent. Je pense qu'il est très frontal. Alors, s'il est encadré, est-ce qu'on montre des films très durs sur la Shoah dans les écoles ? Je n'en sais rien.
Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il faut le montrer.
Je pense que c'est un film utile, ça c'est sûr.
Ça dépend à quel âge, évidemment. Maintenant, ça dépend ce que tu appelles l'école. L'école, ça peut vouloir dire beaucoup de choses.
Oui,
je pense
qu'à
mes gamines
hein,
qui sont petites, j'éviterai sans doute aujourd'hui. En secondaire, ça a du sens, effectivement, de le passer.
Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi que l'acteur principal a joué dans Love Actually ? Voilà. Et dans Amistad.
Il était découvert dans Amistad.
On peut saluer aussi, pas la performance, mais en tout cas la venue de Benedict Cumberbatch qui joue Sherlock dans la fameuse série
Oui, tout à fait. Il faut que je regarde cette série.
Qui est absolument partout, qui joue aussi dans le film sur Wikileaks.
Mmh. Et qui est toujours très bien.
Qui est toujours très bien. Qui a une drôle de tête, mais qui est toujours très bien.
Mais Michael Fassbender, ici, est très bon dans son rôle, je trouve. Il reste l'icône de Steve McQueen. Il y a un truc très étrange entre ces deux auteurs.
Ils s'amusent, oui.
N'ont rien à voir entre eux. Et voilà, ça fonctionne très bien. Il joue très bien le type à moitié fou.
Oui, très bien.
Ici, il est plus qu'à moitié fou. Il est carrément dégénéré.
Quoi. Oui, oui, oui.
Sa femme
il
est pire,
a été terminé au pipi, quoi.
T'as
aimé, c'est que ça... Oui, je l'ai. Oui, oui. 8 sur 8 ou 9, je sais pas, c'est difficile de coter un film pareil, mais bon.
Oh non, enfin,
allez, 9, j'irai 9.
Oui, moi je trouve ça mérite 9. Encore une fois, moi j'ai passé un bon moment de cinéma aussi, même si c'est difficile et c'est pas agréable. Cinématographiquement, il s'est passé des choses pendant que je regardais ce film, quoi.
Nico,
moi je veux m'en tenir à 8.
D'accord, et Guy.
Moi aussi, un petit 8 pour moi. C'était pas un moment génial.
Oui, c'était un
moment utile, c'est un moment utile, mais pas un moment formidable.
D'accord, on parlait donc de 12 Years a Slave, le dernier film de Steve McQueen.
You wonder ever you're a bad man?
World needs bad men. We keep the other bad men from the door.
Well, you don't pick your parents and you don't pick your partner. A smart guy who's steady is hard to find.
Whispering, 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 whispering. La série événement de la rentrée de janvier, elle s'appelle True Detective. Ne vous laissez pas rebuter par son apparente banalité. Certes, son nom est tout pourri, mais ceci, mes amis, est peut-être bien ce que la télé a fait de mieux, en tout cas cette année. Vous allez me dire que c'était pas très 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 compliqué, tellement tout a été vraiment à chier depuis septembre, et vous aurez raison. Donc True Detective, c'est une série HBO, c'est un polar avec deux flics qui reviennent des années plus tard sur la paire qu'ils formaient dans les années 90 et qui enquêtaient sur le meurtre étrangement mystique d'une prostituée. Les policiers, c'est Woody Harrelson et Matthew McConaughey. J'en profite pour enfoncer une porte largement ouverte et souligner à quel point Matthew McConaughey est étonnant, maigre et massif, inquiétant et très juste en flic qui a perdu pied. 3 épisodes ont déjà été diffusés au moment où je vous parle sur HBO. Le public et la critique leur font la fête. Il y en a donc 8 de prévus. 8 épisodes noirs et rugueux qui ne se défroquent pas immédiatement et qui prennent du temps à dévoiler leurs enjeux et qui en même temps progressent, je trouve, de façon très très efficace. On pense un peu à The Killing, un peu à Top of the Lake, à ce qui se fait de mieux en tout cas. Guy, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Que du bien, et à peu près ce que tu viens d'en dire.
D'accord.
Globalement. Si ce n'est que... Allez, moi j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai pas vu le dernier qui est sorti hier, donc j'ai pas encore su le voir. Maintenant, je trouve qu'effectivement, dès les premières images, dès le générique...
Il est formidable.
Tu comprends, le générique est formidable.
Tu comprends que ça va être quelque chose de fort, de dense et d'important dans le petit monde de la série. Ça, c'est carrément indéniable, je pense. Maintenant, je trouve que ça se traîne un tout petit peu... C'est-à-dire que, attends, je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'effectivement c'est bien qu'on prenne le temps, qu'on laisse les personnages se développer, et ça c'est une des forces effectivement de la série, clairement, mais ça manque un tout petit peu de nervosité quand même au niveau du développement de l'intrigue, je trouve, jusqu'à présent. C'est ce qui me... Je suis devant, et je me dis c'est bien, mais je suis encore un petit peu...
Mais est-ce que l'intrigue n'est pas secondaire, en fait, là-dedans ? C'est plus, je sais pas, l'installation d'un univers et de personnalité dedans ?
Tout à fait, c'est ce qui fait ses qualités aussi, mais c'est ce qui, chez moi, fait que je suis encore un tout petit peu à distance. Alors moi, j'ai l'impression que c'est le genre de série que tu dois voir d'une traite comme ça. Mm-hmm. Moi, je pense aussi. Parce que tu dois rester dans l'univers. Parce que quand tu te sors de l'univers, tu retournes la semaine d'après, tu dois te replonger et te réadapter au rythme. Et c'est pas toujours facile. Moi, franchement, je pense que je vais attendre la fin pour la regarder d'un coup. Et me mettre dans une petite bulle. True Detective, me mettre dans cette bulle-là et l'apprécier complètement à cet égard.
Enfin, ça peut rendre fou aussi, à mon avis, regarder ça pendant 8 heures sans discontinuer.
Peut-être.
Non, parce que c'est, finalement, 8 épisodes, c'est court. Hein. Sur le principe de la série, c'est intéressant. C'est toi qui me l'as appris dans le magazine, justement, c'est en lisant ton papier que j'ai vu ça. Donc, le principe, c'est qu'ils vont faire des mini-séries chaque année de 8 épisodes.
Mais est-ce que ça a déjà été renouvelé?
En changeant à chaque fois de duo de flics, si
c'est
j'ai bien compris.
C'est le projet initial. Et ça va peut-être pas être le cas. C'est d'accord. Un peu en fonction de. Okay. Donc, Nick Pizzolatto, qui est le showrunner de la série, a dit que c'était pas sûr et certain finalement qu'il le fasse comme ça. Mais de fait, c'était initialement prévu qu'après chaque série, on renouvelle les personnages principaux, les intrigues, après chaque saison, pardon, et donc qu'on en fasse une série qui soit un petit peu disparate.
Ce qui lui vaut son nom de série d'anthologie, comme j'ai trouvé sur Wikipédia quand j'en parle. Il y a 2 épisodes, c'était une série d'anthologie.
Non, c'est vrai.
Donc, mais sinon, bon, moi personnellement, je rejoins évidemment ce que vous avez dit, c'est de grande qualité, les acteurs sont vraiment géniaux. C'est vraiment 2 acteurs qui sont bien. On est dans un produit plus cinématographique que télévisuel, comme on l'entendait ces 15 ou 20 dernières années. C'est vrai qu'au niveau du rythme et de l'installation des épisodes, voilà, le 3e vient d'être mis en ligne cette nuit, donc j'ai pas encore l'occasion de le voir. Sur le premier, ils sont de temps en temps sur le fil, presque à la limite du grotesque un petit peu, quand il tient son long monologue Matthew McConaughey dans la voiture, on sent qu'on est dans quelque chose qui va être très intérieur, très intellectuel, sur les démons intérieurs des flics dans leur vie de flic. Donc là-dessus, il y a quelque chose de vraiment intéressant, parce qu'on revient vraiment fondamentaux plutôt de la littérature, du roman noir, revient à la figure du détective, ce que ça représente, pourquoi ce genre de personnage est intéressant, parce qu'ils s'affrontent le pire, donc c'est vraiment les affres intérieures. Effectivement, les 2 personnages sont passionnants pour ça, dès le départ, avec Matthew McConaughey qui est complètement sur la corde, qui a déjà de nombreuses fois tombé dans le ravin et s'est relevé. L'autre qui semble, mais d'après moi, qui semble juste plus les pieds sur terre, on aurait pu croire.
Ouais, non.
Au niveau des acteurs, Woody Harrelson, dans mon idée, était plus quelqu'un de frappadingue.
Ouais.
Que Matthew McConaughey, je trouve qu'il joue très très bien ici. Donc voilà, je me souviens que mes meilleures séries pour moi c'était Six Feet Under, j'avais pas tellement accroché aux premiers épisodes, donc on sent qu'il y a un énorme potentiel dans cette série-ci, que j'ai envie de connaître la suite. Je suis pas encore prêt à lui mettre un 10 sur 10 et à me dire que c'est la série de ma vie.
Il faut pas le faire, il faut attendre.
Voilà.
Ici, je trouve que le 3e épisode, Myriam, tu l'as vu aussi,
de
je pense.
Très haut vol, hein.
C'est le meilleur des 3, et donc, je pense que ça donne vraiment une idée. Parce que c'est vrai que quand on voit le pilote, c'est très stylé, c'est très léché. On pense effectivement à un mix un peu de Top of the Lake et de Justified, moi j'ai trouvé. Pizzolatto, il a écrit des épisodes de Killing, donc on fait le lien aussi. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très lié à la littérature, les vérités que McConaughey balance sur la nature humaine. Moi, par moments, je trouve que c'est digne de James Ellroy. C'est vraiment
Mais c'est très littéraire, justement.
C'est très littéraire. Sur la religion aussi, dans
le monologue dans la voiture, ce qu'il dit.
Sur le couple, sur tout.
Et tu te dis, waouh, c'est quand même vachement bien écrit, quoi.
Ah oui, non, bien sûr, mais c'est très littéraire. Justement.
Mais alors au début, je trouve qu'il y a un petit côté regardez comme c'est bien écrit, regardez comment on met bien en scène,
comme les acteurs jouent bien, et tout à fait.
Mais là, après 3 épisodes, je me suis dit au début les petites réticences comme ça, et puis finalement elle s'effrite, et je me suis dit ouais,
c'est exactement ce que j'ai pensé. Après le 2e épisode, en disant il y a un petit côté regardez comment on est fort, c'est très fort ce qu'on fait. On est très sérieux et on sait très très bien ce qu'on fait. Mais fait, si le 3e épisode dont tu parles est aussi fort que tu le dis,
Pour l'instant, ça tient vraiment ses promesses. Il faudra refaire le bilan après les 8, quoi, évidemment.
Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même la meilleure nouvelle série de.
Oui, clairement.
Complètement.
Il y a un ton dès le départ qui est.
De quoi, de 2014, tu veux dire?
Non, depuis septembre.
Ouais, ça fait longtemps que j'ai plus vu une série un peu particulière que tu sens écrite.
Mais tu sens qu'HBO qui avait fait. Qui avait fait de la merde en 2013, ils n'avaient rien fait, quoi.
Oui,
au début d'HBO, ils avaient sorti Hello Ladies de Stephen Merchant,
qui vient d'être annulé,
qui était irregardable, avec tout le respect que je peux avoir pour Stephen Merchant, qui est un type génial, mais sa série n'était pas terrible, on en a déjà parlé.
Oui, complètement. Oui.
C'est irregardable. Donc HBO était un peu en retrait par rapport à Showtime, Netflix et les autres, et donc là. Tu sens qu'ils sont dit, ok, bon.
Mais on y va maintenant.
N'oubliez quand même pas que c'est nous les patrons, quoi. Donc, je crois qu'il y a un petit côté comme ça aussi, qui est intéressant. Faut voir maintenant ce qui va arriver dans. Parce qu'il y a quand même pas mal de promesses en 2014 aussi.
C'est vrai.
De choses
en tout cas, c'est vrai qu'ici, ça renouvelle un genre. Comme on disait, le duo de détective, on peut avoir 25 séries en tête. Il n'y en a aucune qui correspond à celle-ci.
Ouais. Et la construction est vachement bien.
Ouais, tout à fait. Ce côté flashback permanent. C'est très fort. Ouais.
Le fait qu'il y ait deux narrateurs aussi. En fait, à un moment, on se demande qui raconte l'histoire. Est-ce qu'ils ont la même vérité? Et ouais, donc, exactement. En fait, ça permet une profondeur, je trouve, à l'histoire dans le passé.
Pour un peu rendre ça plus concret pour ceux qui n'auraient pas vu la série, en fait, ils se font interroger eux-mêmes, les deux flics, séparément par deux autres flics.
Dix ans après,
on ne sait pas exactement si les flics enquêtent sur leur vieille enquête ou sur leur pratique à eux, mais ça leur permet de faire des ellipses, d'avancer très vite dans le temps. Enfin, c'est super habile.
Et je trouve que c'est très accrocheur pour le spectateur parce que forcément, on est dans l'ombre, un peu comme les personnages qui ne savent pas très bien pourquoi ils se font interroger.
Et puis, tu vois qu'ils vont pas bien aujourd'hui, les personnages.
Ça donne une espèce de un truc en quatre comme ça, puisque McConaughey et Harrelson ne jouent pas de la même manière leur personnage maintenant qu'ils le jouent il y a 15 ans, enfin, si tu veux. Et donc, ça donne vraiment plusieurs lectures à cette série qui est quand même.
Je trouve que c'est une technique de narration brillante.
Par contre, je voudrais dire pour conclure qu'il y a quand même un nom qu'il faut retenir pour cette série pour résumer l'intérêt: Alexandra Daddario.
C'est celle qu'on voit à poil.
Alexandra Daddario.
Qu'est-ce que c'est que c'est ça?
Je vais répéter ce nom, Alexandra Daddario.
Mais non, voilà. Il n'y a pas besoin de le répéter.
Elle est complètement bonasse.
On a tous facebooké pour voir si elle ne voulait pas nous accepter.
Alexandra Daddario.
Alexandra, oui, si tu nous entends.
C'est assez exceptionnel.
Moi aussi, j'ai justement une petite réserve à faire. Je la trouve très belle, hein, de très beaux seins.
Mais c'est pas crédible, quoi.
Elle porte très bien le monokini du bas, donc nue du bas.
C'était
et
un grand moment de télévision.
Mais est-ce que c'est bien utile de faire coucher le personnage de Woody Harrelson, qui est quand même.
C'est pas utile, mais c'est très
agréable. Avec une espèce de bimbo mannequin de papier glacé qui sort de nulle part, je trouve pas ça crédible.
Et d'autant que
la femme
de Woody Harrelson, qui est Michelle Monaghan,
qui est aussi canon.
Et ça c'est un travers. Ça c'est un travers du cinéma et des séries américaines en général. C'est toujours de faire sortir leurs personnages principaux masculins avec des bombes.
Mmh. Mais oui, je trouve ça super crédible.
Ouais, mais c'est depuis que je sais que François Hollande serait avec Julie Gaillet.
Mais voilà, et puis c'est de l'ordre du plaisir coupable.
Ne confondons pas Julie Gaillet avec Mademoiselle dont tu viens.
Alexandra Daddario.
S'il te plaît, avec tout le.
Non, c'est pas le même physique, je pense.
Tout le respect du monde pour Julie Gaillet, y a pas match quand même.
Mais j'ai beaucoup de respect pour Alexandra Daddario. Beaucoup, beaucoup de respect.
Mon Dieu. Bon, alors, je vais mettre 8 sur 10 pour cette série, en tout cas pour l'instant, ça pourra virer sur le 9, et puis un 10 pour les nichons d'Alexandra Daddario, évidemment. Guy.
10, voire plus pour les nichons d'Alexandra qui sont spectaculaires. Et 8 pour la série en attendant la suite, en effet.
Vous savez qu'il y a déjà beaucoup de blogs qui parlent de la meilleure série, de la meilleure scène de série jamais tournée dans cette scène de sexe où on voit les seins d'Alexandra.
Elle est incroyable.
Mais c'est assez interpellant, il faut bien dire.
Nico.
Non, bah oui, bah 18 pour cette scène et 8 après 3 épisodes pour la série.
Ouais. Et voilà. Olivier.
Moi, je mettrais 10 à la série si elle m'envoie son numéro de téléphone, sinon je vais garder un petit 7,5.
Ah, bah c'est très bien. Ouais. True Detective, c'était donc, et c'est donc la nouvelle série à sensation, sensationnelle de HBO. The Smoke Behind the Sound, c'est le nouvel album des Liégeois de My Little Cheap Dictaphone. Pas d'opéra pop, pas de concept lumineux ni fumeux cette fois-ci, juste un album. Un bel album, un truc bien fait, bien ficelé, enluminé entre les studios ICP et Abbey Road. My Little Cheap Dictaphone MLCD s'impose, je trouve, un peu comme nos Arcade Fire à nous, c'est-à-dire, c'est très ambitieux comme projet. Mais personnellement, je dois dire que je m'y suis un petit peu ennuyée, peut-être à force de perfection, je sais pas. J'étais beaucoup plus fan de la petite grandiloquence de l'album précédent, son côté un peu cartoon. En fait, je trouve ce disque-ci un petit peu à l'image de la comédienne Pauline Étienne qui joue dans le clip de Fire, qui est impeccable dans tout ce qu'elle fait, mais elle me donne pas envie d'aller voir ses films. C'est pas un argument valable pour me convaincre. Nico, toi, je sais que tu veux pas en parler parce que ces gens-là, ce sont tes amis. Ouais, ce qui est tout à ton honneur.
Oui, enfin, en tout cas, certains membres du groupe sont des bons camarades liégeois. J'en profite, je peux faire un peu de pub ou...
Oui, oui.
Parce que le 7 février, donc, je joue au Théâtre de Liège. Moi, je pousse des disques après.
Oh,
le 7 février, soirée. Venez au Théâtre de Liège. Mais c'est vrai que voilà.
Sous le nom de Not So Many DJ ou pas du tout?
Non, c'est, mais c'est un nom aussi un peu farce. C'est la planète des singles.
Ah donc, oui, oui,
c'est sur la planète des singes. Et donc, le principe, c'est de passer des 45 tours, donc des singles.
Qui aurait été encore plus drôle si on avait dit la planète des singes. Ce qui n'est pas le cas.
Ou des singes.
Donc, c'est un jeu de mots visuel.
En tout cas, c'est un groupe à voir sur scène, ça, je suis sûr.
Bon, Guy, bah voilà, c'est à toi. Oui. Puisque.
Bon, alors, moi, je ne prétends pas être un spécialiste de l'indie rock ou de la pop. Mais j'aime bien ce disque. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette. C'est bien, je trouve que c'est bien produit, c'est des belles mélodies, c'est bien chanté, j'aime bien en fait, vraiment j'aime bien. Il y a des morceaux, donc j'ai noté notamment Feather Smile, mm-hmm, que je trouve fabuleux. Alors dans l'album il y a comme ça quelques morceaux qui ont de l'ampleur, qui ont un peu de, voilà, de l'amplitude, mais qui en même temps tombent pas dans le grotesque ou dans le pompier.
Non.
Et je trouve c'est parfois, bah, d'ailleurs dans Feather Smile, c'est justement le morceau s'arrête quand j'aimerais bien qu'il dure encore 3 minutes, on va dire, mais il s'arrête justement pour pas en faire trop. Voilà, et moi j'aime bien, mais une fois encore, je suis pas un spécialiste. Nico m'a dit qu'il détestait, donc. Pardon, merde, je pouvais pas griller. Autant pour moi.
C'est faux. Oui.
Non, c'est faux, c'est pas vrai. Mais voilà, donc ça c'est mon avis. J'ai peut-être d'autres choses à raconter, mais ça va venir dans le fil de la conversation.
Olivier.
Donc à moi alors. Bah écoutez, oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que c'était un bon album. Mmh. J'ai bien accroché, mais je reste sur. Une impression de déception, parce qu'en fait je trouve qu'il part très fort avec le premier morceau Fire qui fait le clip dont on va peut-être parler, qui je trouve moi est
en
pas
fait,
nécessaire,
j'en ai parlé dans mon, du goût, mais... dans mon intro, tu peux t'as écouté.
Ah pardon, excuse-moi. Donc voilà, il part très fort sur Fire, et puis je trouve que les autres morceaux ne tiennent pas la promesse qui est faite dans les deux trois premiers morceaux. Je trouve que le premier Fire est vraiment très bon, que le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelait, je prends Changing My Heart, démarre très fort. Voilà, il y a une ampleur, il y a un petit côté archive comme ça dans la montée en puissance. Et je trouve qu'on ne retrouve pas ça dans les morceaux suivants, qui petit à petit, le son, je trouve, s'adoucit. Il y a ce côté moins symphonique, moins opéra rock qu'il y avait un peu dans l'album précédent, mm-hmm, qui a tendance à disparaître au long de l'album. Donc voilà, j'ai l'impression que ça part au-dessus d'une montagne et que petit à petit, ça descend un petit peu. Donc moi, ça m'a laissé une petite impression de déception. Mais sinon, je trouve que c'est un très très bon chanteur. Vraiment, moi, je découvre.
C'est bien.
Pratiquement, c'est.
Michael Larivière.
Voilà, c'est un. Et je trouve que c'est le groupe wallon le moins wallon de tous les groupes wallons de rock.
Oui. Ça pourrait être du Grizzly Bear.
Oui, tout à
voilà,
fait.
Exactement, du Pavement parfois. Je trouve que voilà, il y a pas ce son qui moi généralement m'énerve dans le pop rock.
Girls in Hawaii, des choses comme ça.
Oui, on peut en citer 15. Hein. Il y a voilà, on retrouve une sonorité, une manière de chanter. Les chanteurs francophones qui chantent en anglais généralement ça m'agace. Ici, il y a pas ce problème-là. Je trouve que vraiment, il a une très belle voix, il chante très très bien. On sent que c'est son groupe quoi, qui prend de l'ampleur, qui a une gravité dans. Et dans les chansons, dans la manière de les faire, il y a une ampleur, il y a du corps.
J'ai cru comprendre, alors peut-être que je me trompe, mais là Nicolas pourra nous éclairer, ce que donc Red Boy avait pris des cours d'anglais, ouais, entre le précédent album et celui-ci.
D'accord.
Pour pouvoir justement, parce que je pense qu'ils ont une frustration, ouais. My Little Cheap Dictaphone, c'est de ne pas pouvoir être diffusé en Flandre. Mm-hmm. Apparemment, ils sont complètement, la Flandre est complètement hermétique à leur charme jusqu'à présent. Et donc, mais tu peux peut-être confirmer ou pas?
Oui, c'est ça, pour l'album précédent, Tragic Tale of a Genius, là, il avait été effectivement en résidence, si on peut dire, dans le Nord, je pense, chez une anglophone qui l'avait aidé pour l'écriture des chansons aussi, donc pour pas faire de l'anglais petit nègre, quoi.
Ouais.
Et il avait travaillé effectivement son accent. Donc c'est sûr que s'il y a un truc qu'on peut pas leur reprocher, en tout cas, c'est le côté, c'est pas des fainéants, quoi.
Ils sont
tu sens que c'est un truc qui a été bossé, ça c'est évident.
C'était des ultra bidouilleurs qui cherchaient le bon son avec la bonne guitare au bon moment.
Oui, c'est ça, qui revendent des guitares, qui rachètent des guitares, qui peuvent chercher un son pendant des jours.
Je trouve que la prod est assez bien,
ouais,
sur l'album.
Ouais, c'est quand même, c'est de facture internationale.
Oui, tout à fait, ça mériterait d'être connu largement à l'extérieur de nos frontières, de nos petites frontières. Et vraiment, comme tu disais, tu parlais du concert, moi l'album m'a donné envie d'y voir sur scène, parce qu'il y a vraiment des morceaux que tu n'attends que de voir exprimer sur scène, où tu sens qu'il peut y avoir une ambiance, une atmosphère.
Une envolée.
Justement, c'est ce que je te disais par rapport à une envolée qui peut durer encore quelques minutes sur scène.
Oui, exactement, tout à fait.
Vraiment,
tout à fait. Je suis d'accord avec toi sur le morceau que tu citais à la fin, ça redémarre un peu, mais. Moi, voilà, il y a une sorte de creux, de faux rythme qui s'installe au milieu dans les 3, 4, 5 morceaux.
Mais ça, trouve-moi un album pour le moment qui sur la longueur est complètement.
Ouais, je dis, c'est la promesse qui est faite par le premier morceau, qui est très fort, qui a vraiment une envolée comme ça. Enfin, moi, ça m'a fait penser à Archive, vraiment, une montée en puissance. t'aurais placé ce morceau plus loin que sur la première qui ouvre l'album, parce que c'est pas représentatif,
ouais, peut-être,
du son qu'on retrouve de manière générale sur les 9 autres morceaux. Mais de fait, ça reste, moi je trouve ça un bon album, et c'est pas un album belge, je sais pas le dire comment,
oui.
Mais
oui,
voilà, y a pas ce son là.
Je le dire aussi, mais je trouve c'est un peu condescendant pour le belge que nous sommes.
Oh, on l'est tous, donc c'est pas très grave. Mais voilà, il y a ce côté pas géographiquement localisé qui me plaît.
Ouais. 7 sur 10 pour moi, parce que même si ça m'a pas passionné, c'est quand même bien.
Oh non, un petit 7 en espérant les voir sur scène.
Bon, ouais, doit être Joker.
Ok.
Moi, un gros 7.
Bon, 7, alors c'est très bien, c'est tous la même chose.
Ouais, on est vachement sur la même longueur
d'onde
aujourd'hui.
Dans les pages de Focus, notre grand gourou Philippe Cornet a aimé et a écrit, ouvrez les guillemets, le disque hyper travaillé mais jamais en baudruche gonflé, à l'orgueil et le charme de l'efficacité pop classique, laissant au final un long sillage mousseux dans lequel on a envie de s'anesthésier de l'époque anxiogène.
Voilà. J'avais bien remarqué son le mousseux.
On va réfléchir 5 minutes et puis on va.
Bon, on va clôturer cette émission avec un livre, un roman hors bord de la journaliste Renata Adler. Un bouquin publié en 76 aux États-Unis qui a eu du succès à sa sortie, qui a disparu de la circulation dans les années 80 et qui a été exhumé par une traductrice française qui a été soufflée par la modernité de ce bouquin. Et c'est vrai que si on ne sait pas d'emblée que ça a été écrit il y a une trentaine d'années, on ne le devine pas tout de suite. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire d'intelligent sur ce livre, puisque je ne l'ai pas terminé. Je n'ai pas pu, hein, parce que hors bord, c'est constitué d'une multitude de vignettes, parfois très 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 courtes, qui j'imagine au final doivent bien raconter quelque chose, mais là, après 80 pages, j'avais toujours aucune idée de ce que je lisais, et j'ai vraiment eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule. D'ailleurs, dans un papier du Monde, l'auteur dit, ouvrez les guillemets, « Je racontais des histoires, et pour chacune, je voulais m'arrêter avant que l'on comprenne pour quelle raison elle figurait là, quel rapport elle entretenait avec le reste. » Fermez les guillemets. Donc voilà,
ouais, c'est tout à fait dans l'attention.
L'un dans l'autre, ouais. Ajoutez à ça que j'ai trouvé ça écrit comme un résultat de Google Traduction. Bref, ça m'est vraiment tombé des mains. Et toi, Olivier ?
Alors non, ça m'est pas tombé des mains, mais c'est vrai que le terme roman s'implique peu à ce qui est une expérimentation littéraire, même si le terme ne plaira pas à l'auteur. On est dans l'expérimentation. Donc tu l'as dit, il n'y a pas vraiment d'histoire, et tout est écrit sur la base de l'ellipse. Donc c'est des morceaux de paragraphes. C'est des paragraphes où on enlevait volontairement le début, mmh. on enlevait la fin, on a tout mis dans un chapeau, on mélange et on étale sur 250 à 300 pages. C'est à peu près ça le principe. Donc ça peut passer d'un extrait de dialogue entre copines au téléphone, puis un reportage qu'elle va faire sur la famille de Biafra, puis hop, c'est un fait divers qu'elle fait ailleurs, puis une remarque sur le prix des chaussures, voilà. Et c'est vrai que c'est difficile à lire, soyons clairs, c'est assez complexe. C'est plaisant pour ceux qui aiment la chose littéraire, parce qu'effectivement, sur... voilà, j'ai rarement lu, voire jamais lu, un livre construit de la sorte.
Moi non plus.
J'ai pas de comparaison évidente à faire par rapport au style. Donc, en soi, c'est intéressant. Pour ceux qui aiment ça, les bidouillages narratifs, c'est assez bien foutu. Le problème, effectivement, c'est que je pense qu'il faut avoir lu l'ensemble du bouquin et pas les 80 pages pour commencer à voir où elle veut en venir. C'est-à-dire que, effectivement, c'est une photo floue de l'époque, ouais, de son milieu... et de la fin des années 70, puisque tu l'as dit, c'est un bouquin qui est paru en 76, à New York. Donc c'est un monde particulier, dans une époque particulière, assez désenchanté, où il y a une grosse perte de sens. Mm-hmm. Si on peut essayer de sortir des thématiques là-dedans, il y a quand même une réflexion sur le travail de journaliste à cette époque, qui reste d'actualité 40 ans plus tard.
Mais c'est vrai que c'est très moderne.
Voilà, ces réflexions là-dessus restent justes. Et voilà, après, ça montre une des personnages particuliers, puisque c'est le New York plutôt intello. L'auteur a travaillé au New Yorker, elle a été critique ciné au New York Times. Voilà, c'est un monde tout à fait particulier, un peu pédant, un peu prétentieux. Ça se sent un peu dans ses intentions et dans sa manière, le regard qu'elle jette sur les anecdotes, sur ce qu'elle voit. Voilà, on sent cette ambiance un peu New Yorker très fort dedans. Après, effectivement, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'histoire, donc... ça peut laisser relativement de marbre ou le jeter au milieu parce que c'est insupportable. Pour ceux qui aiment les expérimentations littéraires, oui, ça vaut la peine.
Moi, je suis peut-être pas assez aventureuse, en fait, je crois.
Je crois qu'il faut le lire au bon moment aussi. Ça demande quand même un peu de concentration. C'est difficile à lire le soir dans son pieu.
C'est un peu comme voir plein de pilotes de séries. Vous savez, ce moment où on se dit, bon, il faut faire l'effort de connaître des personnages.
Et puis les abandonner tout de suite.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'empathie dans ces personnages. Elle n'essaye pas du tout d'avoir... enfin, son personnage est en gros quand même relativement détestable. Elle a beaucoup d'humour, mais c'est un humour qui est quand même basé un peu sur la méchanceté. Donc, il y a des traits d'humour dans la manière d'écrire, etc., qui sont amusants et amusés. Mais ça ne dépasse pas ça en termes de romanesque et de personnage. On s'en fout du personnage. Le seul intérêt, c'est la construction.
Romanesque, il n'y en a pas. Effectivement, il n'y a pas d'histoire. Donc,
voilà.
Ouais, dès qu'elle amorce un récit, enfin, c'est ce qu'elle disait. En gros, dès qu'elle amorce un récit, elle le coupe aussi.
Dès que ça devient intéressant, il n'y a plus. Voilà.
Ouais, enfin, en même temps, ça parfois sur un quart de page. Elle fait des petites histoires comme ça. Ce qui est vraiment, je trouve, par contre, intéressant dans le bouquin, c'est cette manière d'appréhender une réalité avec un. Il y a un ton. On peut pas dire qu'il y a pas un ton. Il y a un regard sur la société qui est quand même intéressant et qui effectivement sur le long terme dans le bouquin est intéressant. Ce qui se passe, c'est que pour entrer dedans, c'est compliqué. Hein. Les 45 premières pages, quelle torture.
Oui, oui, oui.
C'est une torture, pas parce que c'est mal écrit. Au contraire, moi je trouve que c'est.
Non, moi
je trouve que c'est pas si mal écrit. Et il y a des formules qui sont vraiment bien. Je trouve que la traduction est tout à fait décente. Enfin, moi je trouve. Mais après, c'est pour. Il faut ramer et enfin commencer à comprendre petit à petit et accepter son schéma.
Franchement, pour ceux qui n'aiment pas lire ou qui n'ont pas passionné de lecture, c'est un livre à te dégoûter, quoi. Et à ne plus jamais ouvrir un bouquin.
Si t'as besoin d'être pris par la main pour rentrer dans un bouquin, c'est pas celui-là qu'il faut lire. C'est clair.
Oui, c'est sûr.
Qu'elle te laisse hacker, tu démerdes.
C'est un héros qui se retrouve confronté à une difficulté, qui la surmonte.
Il y a quand même choses plus intéressantes à faire en littérature.
Surtout que ça mêle aussi dans les paragraphes qu'elle installe et dans l'ambiance. Il y a des rêves, il y a sa réalité quotidienne, il y a des réflexions. Enfin, c'est vraiment un gros boubli-boubga de plein de choses.
Il y a une phrase, par exemple, il y a plusieurs phrases qui m'ont interpellé, mais il y en a une, par exemple, je trouve assez drôle, qui le disait. Il arrive toujours des choses brutales aux gens très fortunés et aux pauvres aussi, bien entendu. Mais les accidents les plus étranges, c'est pour la classe moyenne. Et donc, il y a ce côté, c'est de l'humour, c'est très deuxième, troisième degré.
C'est très new-yorker dans la manière de faire. C'est très ce côté, encore une fois, intellectuel new-yorkais qui n'est pas du tout représentatif de la société américaine. C'est ce milieu-là qu'on retrouve un petit peu cultivé, qui a un regard assez distancié
et parfois un peu cynique sur les choses.
Voilà, complètement. Et donc, soit on adhère, soit effectivement on reste taqué.
Alors, question, pourquoi est-ce qu'on a lu ça ?
Parce que le chef nous l'a imposé.
Et parce que le fait, c'est.
Il y a un petit culte qui s'est fait autour de son moment,
bouquin. Elle va revenir. L'idée, c'est que. Donc, on a redécouvert 30 ans après son bouquin qui était épuisé aux États-Unis. On l'a ressorti. Elle va sortir un troisième roman maintenant. Et puisque vous en avez parlé il n'y a pas très longtemps, on est à la mode des gens qui écrivent un bouquin tous les 10 ans. Donc, voilà.
Comme
elle va ressortir un bouquin en 2014, 30 ans après. Parce que ça, c'était son premier bouquin. Elle n'en a fait que deux. Et là, deviendrait un troisième l'année prochaine.
Bien, autant être prévenu. Nico, t'as encore quelque chose à ajouter
J'ai rien dit.
Oui, c'est parce que je te vois qui te cure les ongles.
En fait, c'est vrai, ils sont longs. Mais j'ai beaucoup aimé la postface du livre, en fait, qui n'est pas signée réellement, qui n'est pas signée Renata Adler, mais qui explique en fait
tout
le projet du livre. Et le projet du livre est passionnant, vraiment, c'est très intéressant. Donc, capter le sorte de pulsation, une sorte de rythme de la vie, le côté fragmenté, le côté nonsense.
Les intentions sont belles.
Mais alors, à lire, c'est vraiment très emmerdant. Mais c'est un beau projet. Donc, il y a vraiment un drôle de paradoxe là-dedans.
Bravo, Renata. Bravo. Continue.
Bien tenté.
Non, mais c'est vrai.
C'est un beau concept, mais difficile à lire.
Si je pitch le livre à quelqu'un qui est un peu curieux, il va me dire, mais ça a l'air génial. Et c'est vrai que ça a l'air génial.
Oui, c'est vrai.
On a beaucoup donné envie à Isaline de le lire.
Mais toi, Olivier, tu trouves que c'est mal écrit ?
Non, c'est pas mal écrit. Je pense que. Il y a un jeu de langage qui est forcément lié à son écriture de base qui est anglo-saxon.
C'est ça.
Donc sa manière d'écrire ses paragraphes, etc., ça semble plus de sens et plus de musicalité dans sa langue originelle. Je pense pas c'est mal traduit, mais que la traduction ne donne pas.
Ne rend pas justice à la formule.
Ne rend pas justice à la musicalité originelle du texte.
Parce qu'elle joue aussi parfois sur les mots, sur les expressions, où elle se moque des expressions qu'on utilise, comme nous on se moquerait de allô quoi ou de allô ou machin. De ça. Non, c'est vrai. Elle fait pareil avec les milieux dans lesquels elle évolue, où elle tire comme ça de temps en temps sur telle ou telle, telle manière de parler. Et effectivement, en français, traduit, ça donne directement moins
voilà.
Bien.
Et je pense que la langue d'origine de. Encore une fois, c'est new-yorkaise, ça doit avoir un phrasé particulier, voilà, ce côté particulier, un peu pédant, doit se retrouver dans la langue, je pense, qu'on retrouve moins ici directement.
Mais il y a quelques fulgurances quand même, je trouve, quand elle parle par exemple de l'écriture journalistique, je pense qu'on l'a évoqué un peu plus tôt, où en 2-3 pages, on se dit, mais elle a un regard super acéré sur les choses, et quelque chose de très cynique, mais de très juste, et en même temps, on dirait qu'elle n'a pas envie de développer ça, donc on se demande un peu pourquoi c'est là, et on ne le retrouve pas plus loin dans le livre. Et c'est vrai que dans la postface, que j'ai trouvé très intéressante, on la compare un peu à un DJ, donc elle prend un peu des sortes de samples de la vie, elle fait des cuts un peu partout, et elle mixe un drôle de machin qui n'est pas super lisible, mais
est vachement indigeste.
C'est intéressant sur papier quand même.
Ouais, ben moi je lui en veux, je la vois, je lui fous une claque. oui, je vais pas le coter ce bouquin puisque je l'ai, oui, je l'ai envoyé au feu assez vite. Toi Olivier, tu lui mets combien?
Bah, je vais être honnête, j'ai pas pris de plaisir de lecture, donc je vais mettre un 4,5. Mais il y a de l'intérêt littéraire à la chose quoi.
Mais moi je pensais mettre 5 un peu par couardise en se disant je tranche pas vraiment.
Ouais.
Mais
5. Non, c'est bien.
Je suis encore plus focus.
Moi je vais mettre 6.
Bon, d'accord. C'est Hors bord donc de Renata Adler, c'est publié, comment dit-on, chez l'Olivier, à l'Olivier,
aux éditions de l'Olivier.
Aux éditions de l'Olivier.
Excellente maison d'édition, c'est.
Oui, c'est vrai, c'est d'autant la déception est à la hauteur de l'attente. On va donc se quitter sur un petit exposé de nos derniers coups de cœur en matière de culture. Le mien, c'est Punct, le nouvel album de Pierre Lapointe. Alors, rien à voir avec Bobby. Pierre Lapointe, c'est un Québécois qui se présente comme ceci sur son compte Twitter. Chanteur montréalais qui chante surtout des chansons dépressives, mais de belles chansons dépressives. Et en fait, je pourrais m'arrêter là dans la description parce que c'est exactement ça. Cet album-ci, il est surtout fait de chansons qui célèbrent le sexe. La gaudriole, parfois très crûment. Un petit peu de solitude aussi, hein, d'ultra-moderne solitude. C'est toujours très très beau, très luxuriant. Écrit dans une très jolie langue qui n'est pas trop connotée tabarnak, caribou et compagnie, parce que c'est toujours un petit peu le problème avec les chanteurs québécois. C'est la BO parfaite d'une journée d'amour et ou de déprime, parce que ça peut aller de pair, ça peut servir donc dans la vie. Il faut noter que cette année, pour sa tournée européenne qui commence là tout de suite maintenant, Pierre Lapointe délaisse la Belgique, il ne vient pas. Donc pour le voir, il faut aller à Lille. C'est mal quand même.
C'est moche.
Tu n'aimes pas Pierre Lapointe, Olivier?
Je ne connais pas.
D'accord.
Donc je n'ai pas d'avis.
Ok. Bon, et toi,
c'est assez simple.
C'est quoi ton coup de cœur?
Alors moi, c'est une BD. C'est, je ne sais pas si ce sera l'album de l'année, mais c'est en tout cas l'album de ce début d'année. C'est de l'italien JP chez Futuropolis. Ça s'appelle « Vois comme ton ombre s'allonge ». Et c'est absolument magnifique. En deux mots, parce que c'est un album difficile à résumer, on se retrouve dans la tête d'un type qui a 50 ans, qui est un écrivain qui n'arrive plus à écrire et qui fait une crise de schizophrénie, au cours de laquelle il est mis à l'hôpital et où il passe son temps à dessiner deux choses, une station-service et ce qu'ils appellent un arbre sec, un arbre mort. Mmh. Et donc ça va être une plongée dans l'esprit de ce personnage avec des souvenirs et des histoires qui remontent à la Première Guerre mondiale, à l'invention de la mitraillette, de la mitrailleuse et au destin de deux personnages qui se trouvent dans un trou d'obus pendant la Première Guerre mondiale.
Ah
et
ouais.
C'est incroyable. Enfin, je ne sais pas si d'autres
ça nous rappelle un peu le prix Goncourt de cette année.
Voilà, il faut le regarder. Narrativement, c'est vraiment intéressant parce que puisqu'on se retrouve dans la tête d'un schizophrène, c'est raconter une narration faite par un schizophrène. Donc c'est très complexe au début, on s'y retrouve pas, on est presque dans du Renata Adler.
Mais ça prend. Ouais, en fait.
Comme
Lost Highway qui est raconté par.
Bah, il y a ça, effectivement, il y a des rapports comme ça. Et donc narrativement, c'est passionnant. Et alors graphiquement, c'est incroyable. Il y a des pages qui sont faites à l'aquarelle.
Il y a de la couleur, il y a du noir et blanc.
Oui, voilà, il y a toutes les techniques qui y passent et il y a vraiment des pages qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un album à lire qui aurait mérité peut-être un format encore plus grand que celui-là, qui n'est pas celui habituel de Futuropolis, qui est d'habitude plus grand. Mais donc voilà, je le conseille vraiment à tout le monde. JP, vois comme ton ombre s'allonge. C'est du sérieux, mais c'est beau.
Et c'est publié où?
C'est chez Futuropolis.
Oui, pardon. Nico.
Mais zéro originalité, mais je voulais juste redire à quel
Michael
point...
Michael Jackson.
Le Daft Punk, oui.
J'aime beaucoup Daft Punk. Non, redire à quel point le film de Scorsese, Le Loup de Wall Street, est un film formidable.
Ah ouais.
Je sais pas, vous l'avez vu? Non, personne l'a vu.
Pas encore.
Moi, je l'ai pas vu.
J'ai vu une moitié.
Ah, je pensais que tout le monde l'avait vu en fait.
Pas encore. Pas encore.
Moi, je veux pas le voir.
Donc, c'est un film. Pourquoi donc?
Je sais pas. Je trouve que ça a l'air tellement cynique. Et en ce moment, j'ai besoin de bisounours autour de moi.
Ah, c'est cynique, mais
de jolies chansons dépressives.
Exactement.
Ouais. C'est cynique, mais c'est drôle et c'est féroce. Et c'est un film sur l'excès, la démesure. Et c'est vraiment un film.
Ça a l'air d'être une comédie dans la bande-annonce.
C'est une comédie, c'est en fait, drôle, ouais. qui dit des vérités, mais qui se permet d'être drôle et féroce. Et de...
Est-ce que pour toi, Les Affranchis étaient une comédie pour situer
Non. Mais ici, en fait, c'est moins un film de Scorsese qu'un film de Terence Winter, je trouve. Donc Terence Winter, qui est le scénariste du film, et qui est en fait le scénariste historique des Sopranos.
Ouais, c'est ça.
Et le créateur de la formidable série Boardwalk Empire, qu'on aime beaucoup à Focus. Et c'est un film avec des situations dingues en permanence, notamment en lien avec la drogue. Enfin, il y a des scènes trip comme ça qui sont formidables. et des dialogues de fous furieux. Donc c'est 3 heures de film, mais c'est hystérique en permanence et c'est génial. Pourtant, moi, les trucs hystériques, Dieu sait.
Oui, oui, oui. Toi, tu trouves déjà que Desperate Housewives, c'est hystérique.
C'est hystérique, en effet. Et donc, j'ai trouvé simplement le Scorsese, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais vraiment formidable.
Bon, je vais peut-être aller le voir alors. Ouais. Guy ?
Oui, alors moi, comme j'avais complètement oublié de préparer un coup de cœur, je vais vous parler de Helix. Je sais que ça va faire rire Nicolas.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors Helix, c'est la nouvelle série sci-fi. Donc de la chaîne Sci-Fi. C'est la série de Ronald B. Moore, qui est le père de Battlestar Galactica.
Le reboot de Battlestar Galactica. Le truc très réaliste comme ça.
Oui.
D'accord. Excuse-moi, alors, je te coupe. Oui.
Non, pas de souci.
Il y a qu'un Battlestar Galactica.
Il me semble qu'il y a qu'un Battlestar. Non, là, tu es en train de.
Non, mais c'est peut-être moi. Je te coupe, j'ai dit n'importe quoi, excuse-moi.
Oui, merci. C'est pour me couper.
Et pour dire n'importe quoi.
Non, je rigole. Et donc, en fait, Helix, ça se passe en Antarctique, dans une espèce de base dans laquelle on étudie des virus, et forcément il y a un de ces virus là qui se barre en noix de pécan, et de fait il y a une équipe qui vient du continent et qui vient là-bas voir un peu analyser ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il y a 2 scientifiques qui sont morts et pourquoi le 3e a complètement muté, et donc en fait c'est absolument grossier à plein de niveaux, c'est-à-dire que les dialogues et les acteurs sont parfois un peu grotesques, mais en revanche il faut reconnaître à Ronald B. Moore qu'il a une science du scénario et une science du suspense qui est quand même vachement intéressante, et des pistes narratives. Il ouvre plein de pistes narratives qui fait que t'es scotché complètement à cette série. Enfin, moi, j'ai cette impression-là. Nico l'a pas eu vraiment, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu comme impression. Et j'attends les épisodes suivants pour voir ce qui se passe dans cette station. Et voilà. Mais je trouve ça vachement intéressant, même si c'est un petit peu.
Et c'est un nouveau machin.
C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. C'est frais. C'est pop.
Bon, formidable. C'est pop. Ben voilà. Cette fois, c'est tout. On vous revient dans 2 semaines. C'est promis, hein, pas 3. Entre temps, on vous invite à nous lire toutes les semaines dans Focus avec le Vif l'Express. Si cette émission vous a plu, passez-la à ton voisin. Portez-vous bien, cordialement, bien à vous. Salut les gars.
Salut,
salut à tous. Hein.
Tchuss.